Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
J'ai le privilège ce matin de partager la parole de Dieu sur un thème que j'ai vraiment à cœur. Et c'est le thème du mariage. Et vu le nombre de gens présents ce matin, je crois que c'est un thème que vous avez aussi à cœur. Laissez-moi vous dire que le mariage n'a jamais été aussi attaqué qu'en ce moment. Et j'aimerais vraiment que tous les jeunes dans ce lieu ce matin, et les moins jeunes, et ceux qui sont divorcés, ceux qui sont séparés, ou d'autres qui peut-être contemplent en ce moment le divorce, de bien écouter ce que Dieu a à dire. Et ceux qui sont divorcés, l'excellente nouvelle que Dieu a pour vous, c'est que Dieu est un Dieu qui restaure, ou le Dieu des nouveaux départs. Et une parenthèse avant de poursuivre, il est important pour toi et pour moi de ne plus jamais laisser le passé dicter le présent. La seule personne qui puisse dicter ton présent, c'est Dieu. Si ton passé, si ton divorce est dans le passé, ton divorce n'a plus le droit de manipuler ton présent. On a fait des erreurs, on est venu voir le trône de Dieu. On a demandé pardon, et que tu le veuilles ou non, que le diable soit d'accord ou pas, que les gens te jugent ou pas, Dieu pardonne à celui qui demande pardon. Et donc le mariage ou le nouveau mariage peut recommencer à nouveau, même si la religion ne veut pas faire cela. Je sais que dans l'Église catholique, on n'a pas le droit de baptiser des divorcés, ils n'ont pas le droit de faire telle chose. C'est une tristesse, ce n'est pas du tout biblique, parce que Dieu est un Dieu tellement large et tellement immense que même s'il dit que personne ne brise un mariage, Dieu est aussi celui qui dit que tous soient restaurés malgré le péché. Sinon, aucun d'entre nous aujourd'hui n'aurions la grâce de venir devant le trône de Dieu. Avant de commencer vraiment dans mes points, est-ce que divorcer est un péché grave devant Dieu? Est-ce que mentir est un péché grave devant Dieu? Est-ce que voler est un péché? Est-ce que exagérer est un péché? Est-ce que faire un exécutable le midi et le soir est un péché? Est-ce que être un homosexuel est un péché? Est-ce que coucher avant le mariage est un péché? Oh, c'est silencieux là. Donc l'Église a la faculté de choisir quel péché Dieu pardonne et quel péché Dieu ne pardonne pas. Et quels sont les gens qui ont vécu des péchés différents de nous? Toi t'es divorcé, plus le droit à la vie. Toi tu mens, c'est pas grave. Est-ce que ne pas pardonner est un péché? Est-ce que être offensé est un péché? Est-ce que offenser l'autre est un péché? Vous me suivez ou pas ce matin? Arrêtons de définir nous-mêmes à quel niveau de péché on passe dans le côté de la grâce, et l'autre niveau, bon, on n'a pas le droit. Un divorcé a tous les droits de recommencer sa vie s'il donne son cœur à Jésus et s'il recommence une relation avec Dieu, quel que soit son passé. Un violeur est aimé par Dieu. Et s'il se repent, s'il change, s'il donne son cœur à Jésus, sa vie est restaurée, son passé de violeur n'existe plus devant le trône de Dieu. Oui, il faut qu'il prouve des fruits de repentance, bien sûr qu'il faut qu'il change, mais sa vie du passé ne peut plus influencer son présent. Un meurtrier pardonné par Dieu n'est plus un meurtrier, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la puissance de la grâce. Ça ne signifie pas que tout est permis. Ça signifie que lorsque quelqu'un demande pardon à Dieu, Dieu commence une œuvre de restauration. Et si le gars est vraiment touché par Dieu, il arrête son péché. Je tiens simplement à vous encourager ce matin. Parce que je vais te dire des choses puissantes, mais je ne veux pas non plus qu'on croie que voilà, parce qu'on prêche le mariage, on parlera au divorce. Mes amis, le divorce, ça arrive, c'est difficile. Mais au lieu de voir le divorce comme un échec, vois le divorce comme une leçon. Ok, on a divorcé, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Et maintenant, j'ai peut-être une nouvelle vie qui commence, une nouvelle femme, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Parce que Dieu n'est pas glorifié dans la personne qui pleure sur son échec. Dieu est glorifié par la personne qui a appris de son échec. Et qui dit plus jamais ça, je vais changer de vie. Et dans ce contexte-là aujourd'hui, j'aimerais quand même vous ramener, vous tous les jeunes et les moins jeunes, à cette magnifique réalité. Le mariage a été institué par Dieu. Alors bien sûr que Dieu, par sa grâce, peut tout pardonner. Je vous garantis, la seule chose que Dieu ne pardonnera pas, il ne pardonnera pas à celui qui n'a pas pardonné. La Bible. Et il ne pardonnera pas à celui qui maudit le Saint-Esprit. C'est deux choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Mais tous les chrétiens qui viennent, Seigneur, pardonne-moi, je pardonne à l'autre et je te demande pardon, ils sont pardonnés à l'instant T. Leur nouvelle vie commence et ils peuvent montrer des fruits dignes de repentance. Voici la puissance du Dieu que nous servons. Et cela étant dit, j'aimerais vous donner ce matin et vous encourager à vous assurer que le plan parfait de Dieu soit toujours devant vous, que vous puissiez comprendre quel est l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu est un mariage fort à la gloire de Jésus. Certains, comme Paul explique dans Corinthiens, ont eu le don de célibat. Alors comment savoir si tu as le don de célibat ? Si tu as envie de te marier, tu n'as pas le don de célibat. Être un célibataire, si c'est un don, tu es heureux d'être célibataire. Et ça arrive. Si tu es malheureux célibataire, c'est que tu n'as pas le don de célibat. Marie-toi. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Pas que des mariés. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous. De la société, des amis, des voisins, des copains, de l'église. Honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et l'adultère, Dieu les jugera. C'est clair, ici encore c'est clair. Si tu te livres au péché, Dieu te jugera. Si tu demandes pardon pour le péché, Dieu te sauvera. Si tu pèches volontairement, tu seras jugé. Si tu arrêtes de pécher et tu glorifies Dieu, tu seras sauvé par Dieu, lavé par son sang précieux et une nouvelle vie s'offre à toi. C'est la puissance de Dieu. Malheureusement, comme vous le savez, de nos jours, le mariage est maltraité en ce moment en France, dans notre pays. Les gens ne comprennent plus c'est quoi le mariage et les gens font le mariage à leur sauce et pensent que c'est pas trop grave de se marier, c'est pas important de se marier. Écoute mon ami, le mariage a été institué par Dieu. Il a été créé par Dieu. Et on va voir ce matin ensemble, je vais vous rappeler les deux points qu'on a vus il y a quelques jours de cela et on va voir ensemble les prochains points. Mais il y a au moins six raisons six raisons pour lesquelles nous devrions honorer, vivre le mariage. Je vous garantis, mes amis, que le mariage est extrêmement important. On a vu ensemble que le mariage existe premièrement pour rendre possible, je dis bien possible, la connexion entre un homme et une femme. Connexion spirituelle, connexion émotionnelle, connexion physique. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas juste te connecter à n'importe qui. Et vous les jeunes là, qui peut-être aimez tester les choses, si vous voulez coucher avec votre petit copain pour voir si ça marchera, vous êtes loin du compte. Parce que lorsque vous couchez avec une personne, il y a des liens d'âme, il y a des liens d'esprit. Et vous fusionnez avec l'autre. Et s'il y a des démons dans sa vie, vous les chopez direct. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu restes pur, ta vie est pure. Ah, une parenthèse, en tant que chrétien, je crois que nous devrions vivre comme des chrétiens. Grande vérité, hein ? Écoutez bien ça, 1 Corinthiens 11 nous dit, versets 11 et 12, rapidement, « Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, il y a un ordre établi par Dieu, pas par l'homme, pas par la femme, pas par les fémènes, un ordre établi par Dieu. » La femme n'existe pas sans l'homme. À nous, ça. Alors. Mais l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, à nous, ça. Pour ceux qui écoutent dans la France métropolitaine, ça veut rien dire, en fait. C'est les créoles. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Alors, une parenthèse, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est simplement un concept que Dieu a créé. Bon, pas pendant des années. Homme, femme. Genèse 2:18 nous dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Pas un paillasson. Une aide semblable à lui, qui sera son vis-à-vis. Personne, écoutez bien ça, personne ne peut être plus proche de toi que ton époux ou ton épouse. Et une parenthèse importante, ton meilleur ami doit être ton époux ou ton épouse. Non, tu sais, moi, mon mari et moi, on est proches, mais mon meilleur ami, c'est Franck. Mon mari, c'est Patrick, mais mon meilleur ami, c'est Franck. Je dis toi, Franck, et pas toi. Ah. Ça va pas, non ? Dieu a donné à Adam le jardin pour cultiver, il a mis sa femme à ses côtés pour qu'elle avec lui cultive le jardin. Le jardin, le secret, l'intimité, la vérité, la transparence. Ton meilleur ami ne peut pas être ton ex. Et vous rigolez, mais je suis pasteur, j'entends de toutes les couleurs. C'est moi, mon mari et moi, on est cool, mon meilleur ami c'est mon ex. Alors regarde, j'ai fait là, tu peux être sûr que ton mariage va pas tenir. Ça c'est gratuitement pour vous. Marc 10, 6, 7 nous dit, mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et son maman. L'une des choses que je demande en réunion de couple, avant le mariage, je dis au jeune homme, quel est ton rapport avec ta maman? Mon maman, c'est tout pour moi, tout. Quand le gars dit ça là, Temps mort, mariage retardé longtemps. Si le fils, le garçon de 37 ans demande à maman de faire ses chaussettes, il y a un problème technique. Une parenthèse qui n'a rien à voir avec le... Si, mais bon, parents, balancez vos enfants très vite. Apprenez-leur à voler très vite. Surtout si c'est un gars, si le garçon, après 25 ans, 26 ans, à son travail, sa Subaru. Dors chez papa-maman, maman fait le ménage, le didine, le manger, le linge, le... Et lui fait, copain, pousser Subaru. Il y a un problème. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. C'est pour cela qu'il ne faut pas coucher avant le mariage, parce que tu deviens un seul être. Après, on peut toujours redéfaire, mais ça prend des semaines, des mois de travail dans ton âme. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un seul être, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc on a vu ensemble plusieurs choses, mais le mariage est le plan de Dieu et non une tradition humaine. Le vrai mariage ne peut exister qu'entre un homme et une femme, pas entre deux hommes, pas entre deux femmes. Tu peux être copain, tu peux être ami, et même si tu as des sentiments pour ton gars, tu ne peux pas te marier selon Dieu. Dieu ne pourra pas accepter ça. Il te laisse libre de tes choix. C'est tes choix d'aimer un autre homme ou toi t'es une femme et une autre femme. C'est ton choix. Personne ne te juge. Mais Dieu ne peut pas honorer ça comme un mariage. Point. Simple, cool, Raoul, on est copains. Super, on se bat pas. C'est comme ça. Vous savez, on me dit souvent, mais tu sais, Bruno, tu es trop dur. Ce qui compte, c'est l'amour. Ok, il y a une femme de 49 ans qui veut se marier avec un marmaille de 6 ans. Elle a le droit ou pas? Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Mais si, elle aime. Ce qui compte, c'est l'amour. Ouais, le gars veut se marier avec un cheval, il a le droit ou pas? Si, mais ce qui compte, c'est l'amour. L'amour n'est pas suffisant pour que le mariage soit accepté tel qu'il plaise à Dieu. Il faut l'amour entre un homme mature et une femme mature. Il faut être 1 plus 1 égale 1. Faut pas être un demi plus un tiers égale 1. Et c'est pour cela que beaucoup de mariages ne réussissent pas, parce que quand l'homme et la femme viennent se marier, l'homme est trop immature ou la femme est trop immature. Et donc c'est pas 1 plus 1, c'est 0,6 plus 0,8 égale pas 1. Entre autres, il faut que l'homme qui se marie soit un homme et la femme qui se marie soit une femme. Un homme sent le cœur de Dieu, une femme sent le cœur de Dieu, et toutes les jeunes filles dans l'église, toutes les filles dans l'église, si vous cherchez un prince, vous le trouverez dans la cour du roi. Je comprends, il y a des faux princes. Mais écoutez bien ça, les faux princes dans la cour du roi, ils vont vite devenir des princes. Parce que le roi va s'occuper d'eux. Si ce n'est pas le roi, c'est nous. Le mariage est permanent. D'accord ? On a vu ça ensemble. Deuxième chose, on a vu ensemble que Dieu a institué le mariage, il a créé le mariage pour la multiplication de la race humaine. Vous lirez chez vous, mais multipliez-vous, soyez féconds. Et c'est l'un des seuls ordres que le monde sait vivre. Multipliez-vous. Ça, ils savent faire. Ça, ils savent faire. Bam, 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 hop. Dans le monde chrétien, et là, je vous aime, mes amis, je vous aime, quoi qu'il arrive, je serai là pour vous. Dans le monde chrétien, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse entendre dans nos églises, mince, je ne suis pas marié et on a un enfant qui n'était pas attendu. Il est venu comment par PlayStation ? Si tu fais les choses selon Dieu, l'enfant, c'est pas une surprise, hein ? Oh mince, un enfant, il est venu, une cigogne, poup, hop. Je me souviens d'un jour, on a fait une relation véridique hein, avec un pasteur et moi, on était en train de prier pour un jeune homme. Le jeune homme, la fille nous dit qu'elle est enceinte de lui. Et lui nous dit non. Je dis, comment ça non ? Il dit, c'est pas possible. Pourquoi ? J'ai jamais rien fait avec elle. Je dis, donc la fille est enceinte toute seule. Ben, si ça se trouve, c'est Dieu qui a fait encore une deuxième fois le même coup que la première fois. Le gars me ment comme ça, il me dit, Dieu a fait le deuxième coup que la première fois. Je dis, tu vas te prendre un radar là. Non, Dieu te dit, écoutez bien ça, hein, mariez-vous, après soyez féconds. Parce que tu ne peux pas multiplier ce que Dieu n'a pas béni. Écoutez bien ça. Si Dieu n'a pas béni, tu multiplies ce qui n'est pas béni. C'est pour cela que quand tu te maries, ou quand tu viens vers Dieu et tu n'es pas encore marié et tu as des enfants, marie-toi, mariez-vous. Faites les choses selon Dieu, ramenez votre famille sous le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans sa parole. Faites les choses droites, faisons les choses droites. Parce que le mariage est voulu par Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse multiplier cette union entre un homme et une femme. J'aime dans Genèse, quand la Bible dit que Adam connut Ève, et ils étaient nus tous les deux. N'imaginez pas. Nus tous les deux, ça parle d'une telle transparence, d'une telle vérité, aucune honte, aucune gêne. Ils s'aimaient, il n'y avait pas de problème. Dès que le péché est entré, ils se sont cachés derrière des feuilles de figues ou je ne sais pas quel arbre. Le péché casse la transparence, le péché casse la relation, le péché casse tout ce qu'il y a de plus pur. Mais quand le mariage est avec Dieu, il y a une transparence, il y a une vérité. C'est pour cela que ton meilleur ami, c'est ton mari ou ta femme. Ce matin, je vous parle de ce qui est idéal. Je sais, vous allez me dire, oui, mais pasteur, mon mari n'est pas Adam, ce moins. Je comprends ça. On va venir un instant. Troisième chose ce matin, extrêmement importante. Écoutez bien cela, les parents. Le mariage a été institué par Dieu pour la protection des enfants. Protection des enfants. Je ne sais pas si vous captez la profondeur du principe. Le mariage existe pour protéger nos enfants. Le diable s'acharne sur les mariages parce que s'il peut briser les mariages, il peut prendre les enfants. Il est très rare de voir un enfant qui a vécu le divorce de ses parents être en totale bonne santé sans aucun problème. Il y a une blessure qui se passe de voir ses parents se déchirer. C'est tout. Montrez-moi une famille qui a grandi dans l'unité, où les parents sont restés forts l'un avec l'autre, où la présence de Dieu a inondé leur vie, avec des défauts. Quand je pense à Henri-Paul et Sylvia, je vois leurs quatre belles jeunes filles, je vois les filles qu'elles sont devant le trône de Dieu avec leurs défauts, même Rachel les défauts. Mais je les vois comme ça grandir et je me souviens de plein de moments où j'ai vu Henri, Paul et Sylvia se tenir à la brèche pour leurs enfants. Moi, le premier qui leur a dit plusieurs fois, t'es trop sévère, trop sectaire, leur fille venait chez moi pour faire la fête, ils ne savaient pas. Mais elle s'en voulait. Et pas parce que c'était fun, en même temps, elle voulait pas déplaire leurs parents. Aujourd'hui, elles sont toutes mariées, elles ont des couples forts. Elles aiment Jésus. Elles servent toutes le Seigneur. Elles vont à l'église. Elles parlent de Dieu à leurs enfants. Elles veulent grandir. Mais les amis, c'est impossible si le papa tape la maman, si ça divorce. C'est compliqué. Oui, Dieu peut tout restaurer, mais pourquoi ne pas commencer par les choses simples et vraies depuis le départ? Commençons par ce qui marche. Ce qui marche, c'est tout faire pour avoir un couple qui plaise à Dieu, uni et fort, pour protéger nos enfants. Les conseils d'une mère sont extrêmement importants, mais ne remplaceront jamais les conseils d'un père. Et la présence d'un père est extrêmement importante, mais elle ne remplacera jamais la présence d'une mère. Si vous êtes séparés, monoparental, je comprends, mais je me dois de prêcher l'idéal de Dieu. Je ne peux pas laisser les erreurs ou les problèmes de la société devenir le standard, mon rôle de chrétien, votre rôle de chrétien, et de maintenir l'étendard de Dieu qui est le mariage selon Dieu. Parce que même si vous et moi, ou les gens autour de nous, ont échoué, ont une erreur, ont été quittés par le gars est parti, tu es toute seule ce matin, je comprends ça. Alors bats-toi pour que tes enfants se marient selon le plan de Dieu. Ne laisse pas ton échec devenir leur échec. Ne laisse pas le fait que ton mari t'ait quitté devenir pour ta fille le même problème. Le nombre de fois où Elodie et moi, on voit des jeunes filles qui n'arrivent pas à s'engager parce que leur papa a quitté la maman. Mais si tu es chrétienne et que ton mari t'a quitté, bénis-le, laisse-le partir, fais ce qu'il a à faire. Toi, tu es en Christ, tu n'es plus en Christ, tu es en Christ, tu prends ta vie avec Jésus au sérieux et tu inculques à tes filles la vérité, le mariage est quand même beau. Qu'est-ce qui fait que le mariage est vilain? Le mariage? Non! C'est les gens qui le composent. Le mariage, il restera toujours beau. C'est que nous devons être des belles personnes pour avoir un beau mariage. Pour protéger nos enfants. Le papa doit être présent. La maman aussi. Ensemble, ils servent le Seigneur. Et ensemble, ils manifestent le cœur de Dieu. Parce que Dieu, écoutez ça. Dieu, souvent, Dieu notre Père, il est mon berger. Nous, on donne le nom de Dieu. Vous savez, on croit que Dieu, c'est un homme. La plupart de nous, on voit Dieu comme un homme. D'accord? Oui ou non? Enfin, oui ou non? Dis-moi là. Mais Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu, c'est Dieu. Dieu permet qu'on fasse ça pour comprendre plus facilement Dieu, mais Dieu n'est pas homme et femme. Et pour exprimer le cœur de Dieu, il faut être un homme avec une femme. 1 + 1, ensemble, deviennent 1. Pour protéger les enfants. Tout le monde dit, je veux protéger mon enfant. Et je comprends qu'il y ait des moments particuliers, des blessures, je comprends ça, mais mes amis, rien ne remplace le plan parfait de Dieu. Proverbe 14, 26 nous dit, puissant passage, la personne qui respecte le Seigneur est en sécurité car il protège ses enfants. Quand le mariage est respecté, quand le mari et la femme respectent le Seigneur, ses enfants sont en sécurité. Exode chapitre 20, verset 1. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Proverbe 20, verset 11. Écoutez bien ce qui suit. Proverbe 20, verset 11 nous dit, le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure ou droite. Écoutez bien cela. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. Et on voit si sa conduite sera pure ou droite. On voit, on prédit, on se prépare à se dire, oh lui, il pousse droit ou il pousse tort. Mais qui peut voir ça si ce n'est les parents? Un enfant livré à lui-même grandira comme il le voudra, sans aucun cadre, aucune discipline, aucune règle, rien, et grandit, et tout lui est acquis, et il devient un enfant réellement hors de contrôle. Un enfant qui grandit en pensant que tout lui est acquis. Et, écoutez ça l'Église, le mariage Écoutez bien ce que je veux dire là, sert de cadre dans lequel l'enfant est protégé. Pourquoi ? Parce que si le mari et la femme n'arrivent pas à montrer comment respecter Dieu, l'enfant ne va jamais apprendre à respecter Dieu. Un enfant ne va pas respecter Dieu parce qu'on lui demande de respecter Dieu. Un enfant respectera Dieu parce qu'il verra les fruits du respect de Dieu. Mettez des règles dans la vie de vos enfants. Sans amour, c'est impossible. Avec amour d'abord, l'amour est là, mais l'amour donne des règles qui font grandir l'enfant avec respect. L'amour fait que l'enfant comprend qu'il y ait des conséquences à ses actes. Le rôle des parents est de vérifier que tout se passe bien, qu'il grandit bien. Le mariage existe pour que le cœur du père soit manifesté envers ses enfants, que le cœur de la mère se manifeste envers ses enfants. C'est le cadre idéal. Ne sous-estimez jamais le mariage. Que vos parents soient divorcés, que vous soyez divorcés ce matin, ne dites plus jamais que le mariage ne marche pas. Le mariage marche. C'est deux sirops qui ne marchent pas. Et je vous aime manger ça. Et des fois, les gens sont dans mon bureau, je les écoute, je dis, mais c'est pas possible. Applique la parole. Ouais, mais moi je pense que, moi je crois que, moi je pense que, moi je dis que, moi je pense que, elle à côté. Moi aussi, il pense que, moi aussi, il veut que, moi aussi, il pense que, babou. Et là, viens me voir, pasteur, il faut que tu nous aides. Mais tu rigoles ou quoi? Et des fois, j'aurais aimé qu'on puisse réintroduire l'ancienne alliance. Coup de claque, coup de roche pour tout le monde. Et les femmes, je me dis, mais comment on n'arrive pas? Je ne parle pas d'une femme chrétienne, d'un mari non chrétien. Le non chrétien, il est hors contrôle. Mais deux chrétiens qui se prennent la tête, il y a un problème. Pour moi, deux chrétiens qui se prennent la tête sont ceux qui ont perdu la tête. Éphésiens 6, versets 1 à 4, le verset préféré de tous les enfants de l'église Extravagance, ils l'ont collé sur leur miroir. La Bible dit, vous enfants, obéissez à vos parents. À cause du Seigneur. J'imagine les jeunes d'Extravagance aller au lycée avec ce verset sur leur t-shirt. C'est plus Chanel, Flanel, Tanel, tout ça. C'est plus des marques de c'est plus Nike. C'est un grand verset. Enfants, obéissez à vos parents. Je peux te garantir que tu fais effet. Hein. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Écoutez bien ça, enfant. Celui qui honore son père et sa mère aura une vie heureuse et va jouir d'une longue vie sur terre. Après, il est dit, mais vous, père, n'exaspérez pas vos enfants, n'énervez pas vos enfants, ne les agacez pas, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Tu sais, un jour, on me disait, je crois que le dit me disait ça cette semaine, qu'elle a lu une histoire d'un papa, qui éduquait ses enfants et qui s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'est pas lui qui éduquait ses enfants, c'est son père. Parce qu'il reproduisait dans la vie de ses enfants ce que son père avait fait avec lui. Charge à tout chrétien ce matin de ne pas éduquer vos enfants selon votre éducation. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. À une époque, il fallait absolument avoir des chaussures. Quand mes filles sont arrivées en Afrique du Sud, mes deux filles, en Afrique du Sud, les Timarmaïs courent sans chaussures. Là-bas, ce n'est pas un péché. En France, oui. Quand mes filles sont arrivées de l'Afrique du Sud, elles marchaient sans chaussures, les gens nous regardâmes. Comme si nous fûtes venus d'un autre pays. C'était le cas d'ailleurs. Je dis, mais pourquoi elles sont sans chaussures? C'est dangereux, ça les salit aux pieds, la honte. Mais dans quel film t'as vu ça? Ou qui vous a ordonné de manger avec votre repas en commençant par devant le plat? Mon père, pour des années, on s'est prié pour ça. Et à cause de ça, je me suis rebellé, à ma grande honte. Papa, excuse-moi, mais papa voulait que je mange en commençant mon plat de devant moi vers l'arrière. Mais moi, j'ai pas envie. Moi, je commençais par l'arrière. Quand je coupais ma viande, je ne la coupais pas, j'arrachais les bouts de viande. Tu sais, il fallait qu'on change la fourchette de côté, qu'on coupe. Prends ton couteau comme ça. Mais j'ai pas envie de le faire. C'est un péché. Non mais, et on éduque nos enfants selon ce qu'on nous avait appris à l'époque. Par exemple, ton plat, finis ton plat, mange tous tes légumes. Tous tes légumes, mange tous tes légumes. Sans pas de table sinon. Moi dans mon temps là. Oui, d'accord. Est-ce que c'est un péché grave de ne pas manger de brocoli? Harold dit non. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Un péché, c'est mentir, voler, tricher, manquer de respect. Oui, ça oui. Mais il y a des enfants qui mangent des brocolis et qui dans leur cœur vous jurent. Vous êtes content parce qu'ils mangent des brocolis, mais le gars, plus vous ça part, plus vous dites, j'ai 9 ans, j'ai hâte d'avoir du temps pour passer de la maison. Et tu es en train de perdre ton enfant à cause d'un brocoli. Oh là, ça rit jeune, là. Sans brocal aussi, ça fait ça. Dieu dit, je te donne des enfants pour les protéger. Pour les protéger, pour les éduquer, selon le cœur de Dieu. Quatrième point, cela c'est le plus cool. Dieu a créé le mariage pour la perfection du caractère. Ou le perfectionnement du caractère. À tous les célibataires qui se plaignent de la solitude, je comprends un petit peu. Mais quand tu te lèves le matin, toi, célibataire, que tu bois ton café tout seul, personne ne te prend la tête pour le goût du café. Ou le manque de sucre. Café trop chaud, café trop froid. Personne ne te dit, hier soir, tu as pris toute la couette. Personne ne te dit ça. Tu es tout seul, donc je t'en fiche. Écoutez ça. Le mariage met en lumière ton caractère. Tout seul, tu le caches. Mais marié, la personne te voit jour et nuit. Elle sait exactement comment tu es en secret. Avant d'être milliardaire et d'acheter la personne, chérie, dis rien, donne-nous 50 euros tous les jours, dis rien. T'es cuit. Le mariage révèle très tôt ton caractère. Quelqu'un a dit un jour, l'amour rend aveugle. L'autre a répondu, le mariage lui rend la vue. Ah, tu sais, là. Avant le mariage, oh, je l'aime. Ses dents sont comme des brebis et des moutons qui galopent sur la colline. D'accord ? Get it, chérie. Ça, c'est du poème. Mais quand tout d'un coup... Écoutez bien ça. C'est pas, quand je parle comme ça, les gens pensent que je parle d'Elodie et moi. Pas tout le temps. On voit des couples tout le temps. On parle de vous aussi. Hein ? Parenthèse. Bon, au cas où. Le gars dit, oh, chérie, quand je vois tes dents sont comme des brebis qui courent sur la colline. Tu vois, après le mariage, la femme aime ça. Elle mâche fort, le gars, ça les nerfs. Dites. Ah, attends, avant le mariage, tu aimes ses dents, après le mariage, tu n'aimes plus ses dents. Vous rigolez, mais des petites choses comme ça qui peuvent agacer le gars. Mon sang, il fait un tour. Traduction pour les oreilles, ça m'énerve. Le mariage... Écoutez bien ça, hein. Entrer dans le mariage, c'est accepter le test continuel pour la vie entière de ton caractère. Celui qui dit « je veux me marier » dit en fait « je vais accepter de devenir mature ». En fait, tu te lèves le matin et tu dis « chérie, vas-y, je suis prêt, je vais être mature ». Et Dieu se servira de ta femme, et bien encore, pour t'amener à maturité. Si tu refuses ça, ton mariage sera brisé, tôt ou tard. Tu resteras peut-être avec elle, vous serez deux étrangers. Ou inversement, Dieu a donné l'homme à la femme pour la rendre mature. Alors, ceux qui sont célibataires là, pensez bien à ça. Êtes-vous prêt à accepter le test de maturité? Ok. Proverbe 18, verset 1 nous dit « Ceux qui s'isolent et aiment rester seuls ne pensent qu'à eux et aiment cracher sur les autres et leurs intérêts. » Proverbe 18, 1, je n'ai pas écrit ça, c'est Dieu qui nous le dit. Et ici, il veut montrer que quand tu peux être marié et vouloir rester seul, hein, tu refuses de construire le mariage. Ce qui compte pour toi, c'est « je me suis marié ». Maman, toute la vie, fait du jean pour moi. Ah oui, pareil, fait du jean. Dernièrement, je parlais avec un couple. Le gars me dit, tu sais, moi, mon planning dans la semaine, boulot, sport, dodo. Et ta femme? Ah oui, je la vois pour manger. La femme, ouais, il passe son temps au travail, son temps dans son sport, et moi, il m'oublie. Mais quand je t'oublie, je te vois tous les mardis. Écoute, mec, jette ta tête dans ma main. Jette ta tête dans ma main. Je ne vais pas te frapper, mais jette-toi. Vous savez, le mariage, c'est l'interdiction de laisser l'égocentrisme régner. Avant le mariage, c'est « je veux faire, j'aimerais que, j'aimerais, je pense, je veux, j'aimerais, je pense ». Voilà. Après le mariage, là, c'est « nous voulons, nous pensons, nous aimerions ». Le « je » disparaît. Le mariage enlève le « je » de ta vie. Tout devient « nous ». Donc il révèle ton caractère. Et l'une des meilleures, écoutez bien ça, Église, que tu le veuilles ou non, l'un des meilleurs outils de Dieu pour te rendre mature, c'est ton épouse ou ton époux. Amen. Il y a eu un amen tellement profond là. Élodie est l'outil ultime de Dieu pour me rendre conforme à l'image de Christ. Est-ce que parfois elle me prend la tête? Oui. Est-ce que j'ai toujours raison? Oui. Sauf quand j'ai tort. Est-ce que je suis l'outil de Dieu dans sa vie pour l'aider à devenir comme Christ? Oui. Et elle et moi, nous devons accepter de travailler ensemble et de prendre du recul et de voir comment ça se passe. Hier, on faisait un truc ensemble et on faisait ensemble le ménage et il y avait un film de Noël. Et le couple se disputait. Tonnerre. La femme fait, tu sais que tu m'énerves aujourd'hui? Marie dit, oh pardon chérie, c'est réciproque. Tu sais que faut qu'on fasse la paix? Ok chérie, on fait la paix. Tenez, dispute. Les gars, si vous avez ce genre de dispute-là, vous êtes forts. Ça, c'est un film, ça, les gars. Film de Noël. Non, la vérité, c'est que dans le mariage, il y aura ce moment où tu te poses la question, est-ce que mes droits passent avant les siens? Le vainqueur dans le mariage, c'est celui qui sera toujours le plus humble. Celui qui sert. Ce matin, j'écris sur un mur, un réseau social, j'écris ce que Dieu me disait hier soir, très tard, en train de prier, il me disait, Bruno, seuls les orgueilleux s'offensent. Si tu as de l'orgueil, tu vas t'offenser, pour n'importe quoi. Si tu es humble, tu ne t'offenses pas. Il est quasiment impossible à celui qui est humble de s'offenser. Si dans ton couple, il y a beaucoup de râles poussés, beaucoup de disputes, beaucoup de mots durs, crus, beaucoup de violence, c'est qu'il y a beaucoup d'orgueil. Oh là là, vous avez l'air bizarre. Vous avez un petit peu d'eau? Parce que l'humilité annule la dispute. Imagine, tu cries, ouais, tu m'énerves ça. Tu cries, puis la femme fait... Pardon mon amour, je t'aime. Est-ce que est-ce que je m'excuse? Franchement, je suis désolé. La Bible dit que les disputes sont comme un feu. Quand tu enlèves le bois, le feu s'éteint. Mais si on donne des bois, les créoles s'expriment. Si on donne des bois, si on donne pas qu'aimant, le feu va prendre. Ah, je sais, les femmes aiment avoir raison, je sais. C'est pas grave. Dieu, seul juge. Non, vous savez ça, dans un couple, écoutez bien ça, pourquoi le mariage est aussi important? Le caractère. Qui aimerait ressembler à Christ? Accepter que le mariage soit un des outils puissants de Dieu pour te faire ressembler à Christ. Et tu vas voir ta femme comme une aide, l'aide de Dieu pour te transformer en l'image de Christ. C'est pour ça que vous devez, quand vous vous mariez, choisir non pas une personne que vous trouvez cool ou riche. Mon point est le suivant, quand tu veux choisir ton épouse ou ton époux, cherche Dieu, cherche sa présence, écoute le cœur de Dieu plus que ton cœur, parle avec ta future femme, vois si elle va dans la même direction que toi, parce que son nord ne peut pas être ton sud. aller dans la même direction ensemble. Et votre mariage réussira tôt ou tard. Dieu a créé le mariage pour construire la société. Dieu a créé le mariage pour construire la société. Proverbe 14, 34 nous dit « La justice, c'est-à-dire faire les choses selon Dieu, élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Si vous voulez avoir un impact aujourd'hui, si l'Église veut avoir un impact, il faut qu'elle soit constituée d'hommes et de femmes puissamment ancrés qui ont un mariage fort. Un mariage fort générera tôt ou tard des familles fortes. Et des familles fortes génèrent tôt ou tard des églises fortes. Des églises fortes génèrent tôt ou tard une nation forte. Mais si la justice n'est pas respectée, si on n'est pas en train de respecter la justice de Dieu, si on fait les choses à notre façon, à nous, alors on va, tôt ou tard, détruire la société. Et enfin, dernier point. Dieu, je pense en anglais, a créé le mariage pour refléter notre union avec Christ. Dieu a créé le mariage pour refléter notre union avec Christ. Éphésiens 5, 17, écoutez bien cela. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et parce que vous révérez le Christ, vous respectez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme. Verset préféré de toutes les femmes de France, de Navarre. Le mari, en effet, est le chef de sa femme. Ça sonne bien ce mot ? Ça veut dire qu'il est responsable de sa femme. Qui aime bien être chef ? D'accord, il y a plein de lâches. Qui aime bien être chef ? Homme ou femme d'ailleurs ? Qui aime bien être chef ? Les femmes lèvent la main, ouais, à la pousade. Qui ce matin est responsable de l'entreprise ? Vous êtes patron, entreprise, ou vous avez des employés avec vous, ok, d'accord ? S'il y a un problème dans ta boîte, qui on va venir voir ? Le patron d'abord ou les ouvriers ? Le patron. Celui qui est responsable. La bonne nouvelle pour tous les chefs dans l'église ce matin. Le jour va venir où vous et moi, on va faire face devant le trône de Dieu et Dieu va nous dire, as-tu été un bon chef ? Est-ce que ta famille et ta femme, tes enfants ont voulu servir le roi parce que tu as été un bon chef, tu es un bon exemple, tu as montré les choses selon mon cœur. Alors, ceux qui veulent être chef, assurez-vous d'être de bons chefs. Il dit ensuite ici, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Dieu dit, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Question à tout le monde, est-ce que Christ est un chef digne d'être suivi ? Je répète, est-ce que Christ est un chef digne d'être suivi ? Alors si le mari imite le Christ, alors il est digne d'être suivi. Si le mari n'imite pas le Christ, il n'est pas digne d'être suivi. Ce verset-là enlève toute manipulation, toute magie blanche. C'est moi le bouc. Ou écoute à moi, mais déjà au moins. Et la femme de Dieu qui dit, chérie, d'accord, mais est-ce que tu écoutes le Christ ? Quel Christ ? À moi ça. Oublie. Elle a le droit de te dire, non, je t'écoute pas. Jamais il a été dit que l'homme est le chef de la femme. Non, comme Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme s'il est comme Christ, le chef de l'Église. Verset 24 nous dit, « Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toute circonstance à son mari, comme l'Église se soumet au Christ. Comme l'Église se soumet au Christ, la femme se soumet au mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. » Comment est-ce que Christ aime l'Église ? Il a donné sa vie pour elle. Le mari qui ne donne pas sa vie pour sa femme n'a pas le droit de dire « à moi le chef ». Oublie, tu es déjà le Westpac. Si tu donnes ta vie à ta femme, alors tu commences à avoir le droit légal d'être le chef de la maison, sinon tu n'es pas un chef, tu es un robot chef. Ça paraît dur, mais c'est la vérité, mes amis. Ici, Extravagance, nous voulons des hommes forts. J'ai dit, nous voulons des hommes forts. Nous voulons des vrais maris. Ouh, pas beaucoup d'amen, là. La femme a peur de dire amen, parce que le mari à côté dit, s'il me dit amen, mais c'est quand même le coup. Le mari dit, s'il me dit amen, ben, ça dit à moi, on a vu, ce matin, le pasteur Bruno a dit, on est cuit, là. Écoutez ça. Je pense que c'est fini. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi se présenter, cette église, à lui-même, rayonnante de beauté, rayonnante de beauté, rayonnante de beauté. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voici comment un mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. L'entoure de soins, comme le Christ le fait. L'entoure de soins, comme le Christ le fait. L'entoure de soins. L'entoure de soins. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est au cas où le gars ne comprenne pas ça. Hein. Pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Il n'a pas été dit que le mari doit comprendre la femme. Voilà. Parce que c'est impossible. Mais il a dit « aime ta femme ». L'amour ne repose pas sur la compréhension. Où l'amour n'exige pas de comprendre, mais l'amour aide à comprendre. Vous savez, en tant que pasteur, je me rends compte toutes les semaines, j'ai pas mal de rendez-vous avec Elodie et les pasteurs pour les mariages. La plupart des mariages seraient résolus en quelques secondes si chacun vivait ce passage-là. Dans 1 Pierre 3, je crois, la Bible dit que le mari doit traiter sa femme avec délicatesse, que la femme est plus fragile que l'homme. Qu'on le veuille ou non, la femme est plus fragile que l'homme. Ce n'est pas à la rabaisser, c'est une magnifique vérité. En théorie, la femme est plus fragile que l'homme. Et les femmes le disent, c'est vrai, c'est cool. Elles disent, non, nous on est durs, nous aussi la parité. Écoute, Tiffy, si on fait les choses selon Dieu, tout le monde est heureux. L'Église a besoin ce matin, vous tous, moi le premier, de considérer la fin de l'année 2014 en disant « Je veux finir fort dans mon mariage. Je veux que ma femme se lève le matin en disant « Waouh, waouh. » Ta femme se lève le matin, elle te voit, elle tombe syncope. Tellement elle est folle de toi. Et pas du style « Ah non, pas lui encore, douche-le. » Bon, je vais conclure parce que je veux qu'on prie ensemble aujourd'hui, je veux qu'on puisse vous partir avec votre cœur, ces décisions réelles parce que nos enfants ont besoin de nous. Ceux qui vont se marier bientôt, se remarier un jour, je vous garantis, moi je veux marier des couples forts. Vous savez, en ce moment, avec l'équipe pastorale, et Steph, Joël, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on a le droit de marier un non-chrétien et une chrétienne? Parce que c'est pas facile comme contexte. Dans un verset, Paul dit que les chrétiens ne doivent pas se marier avec des non-chrétiens, ne doivent pas chercher un joug étranger. Mais nous, en même temps, on se dit que Dieu bénit les justes et les pécheurs, que le soleil brille sur tout le monde. Et notre rôle à nous est d'amener la personne à découvrir Christ. Et qu'on ne peut pas choisir pour la femme ou pour l'homme. C'est un sujet, pour les pasteurs comme nous, très compliqué, parce qu'on veut faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a des fois, on me rentre dedans, on me dit « Oui, tu sais, tu maries des divorcés, n'importe quoi. » Mais déjà, je ne marie pas n'importe quel divorcé. Il y a une histoire, il y a une culture, on réfléchit, on prend au cas par cas. Mais malgré tout ça, la question que je me pose ce matin, c'est « Est-ce que nous faisons tout ce qu'il nous faut faire pour que nos mariages réussissent ?» Éphésiens 5 disait tout à l'heure, on a lu tout à l'heure, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, offrez-vous à elles comme Christ s'est offert à l'Église afin de la rendre glorieuse. » Voici ce matin ma conclusion. La gloire d'un homme, c'est sa femme. Les femmes, là, amèneraient tes coups pour vous. « Pas qu'un être femme !» Merci. La gloire d'un homme, c'est sa femme. Regarde comment ta femme se porte et tu verras comment tu vis ta vie avec Dieu. Si ta femme est épanouie, heureuse, si elle accomplit sa destinée, si elle devient comme Christ veut qu'elle devienne, si elle se lève le matin, elle inonde de la présence de Dieu dans ta maison, il y a des hauts, il y a des bas, mais je parle en général, elle brille, elle est belle dans son âme, belle dans son cœur, belle, pas de ces standards physiques, je parle de ce standard spirituel, il y a une beauté qui se dégage, il y a un mari qui travaille bien à ses côtés. La conséquence, c'est que le mari se sent honoré, il se sent encouragé, et tous les deux grandissent ensemble. En 2015, je déclare, je propose, j'encourage, j'invoque, trouve le mot que tu veux, mais que toutes les femmes à extravagance soient glorieuses, belles, qu'elles se sentent aimées, encouragées.